aimer la volonté de Dieu. Avant de connaître Jésus, avant de marcher avec lui, nous avions les uns et les autres mis notre propre volonté en avant et nous faisions nos choix, faisions notre vie comme bon nous semblait, sans trop prêter attention à ce que Dieu pensait de tout cela. Mais depuis notre conversion, depuis notre retour à Jésus, depuis que nous le connaissons pleinement, la volonté de Dieu est devenue quelque chose d'important, est devenue quelque chose qui est précieux, car il y a un changement de direction et la volonté de Dieu commence à compter plus que tout le reste. Et ainsi, dès le départ dans la vie nouvelle, comme l'apôtre Paul, qui était à l'époque Saul de Tarse, il disait « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» C'est la première question qu'il va poser. D'abord, il va dire « Seigneur, qui es-tu ?» Puis ensuite, il va poser direct d'après, au moment de sa conversion, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il tenait déjà compte, il avait déjà compris que la volonté de Dieu était importante. Et bien sûr, Jésus va le dire aussi, non pas ma volonté, mais la tienne. Ça, c'est l'objectif du chrétien. Non pas ma volonté d'abord, mais la tienne. Nous allons en parler ce matin. La volonté de Dieu mérite d'être connue, mais pas seulement. Elle doit être pratiquée. Elle doit être mise en application, elle doit être faite. Certains pensent que la volonté de Dieu, c'est compliqué, que c'est quelque chose de très caché, de secret qu'il faut essayer de découvrir, chercher, essayer de percer les mystères afin de la trouver. Pour d'autres encore, la volonté de Dieu leur fait peur d'emblée parce que Dieu pourrait me demander quelque chose d'incroyable que je n'ai pas envie de faire ou d'aller où je n'ai pas envie d'aller. Donc je préfère ne pas trop m'y approcher, pas trop connaître la Bible ni la volonté de Dieu parce que c'est plus simple. Ça c'est aussi ce que j'appellerais ou ce que je veux dénoncer ce matin comme un mensonge. Connaître la volonté de Dieu est parfois et souvent évident. C'est parfois une évidence pour le chrétien. Par contre, ce qui est moins évident, c'est de la faire. Faire la volonté de Dieu peut impliquer des combats, des luttes, que ceux qui ne la font pas ne connaissent pas du tout. Il ne faut pas être étonné qu'en faisant la volonté de Dieu, nous avons parfois des combats que ceux qui ne tiennent pas compte de la volonté de Dieu n'ont pas du tout. Mais ils ne font pas du tout non plus l'expérience de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu, de la joie de Dieu, de la paix de Dieu, des ressources divines, de la vie en abondance, de la plénitude et de la puissance de Dieu qui s'accomplit lorsqu'on fait la volonté de Dieu. Peut-être ils ont moins de problèmes, mais ils ont aussi moins de solutions divines qui se manifestent devant leurs pieds. Tandis que ceux qui font la volonté de Dieu voient Dieu à l'œuvre jour après jour, régler les problèmes et faire les choses, arranger les choses. Mais nous avons à passer un certain nombre de combats. Connaître la volonté de Dieu, mais vivre hors de la volonté de Dieu, c'est une désobéissance. C'est un péché. Et globalement, procure 100 fois plus de problèmes que ceux qui connaissent la volonté de Dieu, mais qui la font. Combien de fois n'ai-je pas été confronté à des situations qui, d'une manière évidente, était une désobéissance à la volonté de Dieu à la base. Mais on a fait sa volonté personnelle. Et en faisant sa volonté personnelle, on s'est embrigadé dans une quantité d'inconnus et de problèmes qui, finalement, lient la vie, la compliquent et amènent tout un lot de souffrances. Mais vivre dans la volonté de Dieu et dans l'obéissance va porter le sceau de l'approbation divine et vous permettra de porter beaucoup de fruits pour le temps et l'éternité. Oui, il y a une différence entre ceux qui choisissent la volonté de Dieu et ceux qui ne la choisissent pas. Nous avons commencé par partager cette pensée. Quelle valeur donnez-vous à la volonté de Dieu ? Et nous avons dit que chercher la volonté de Dieu ne doit pas se faire uniquement lorsqu'on a besoin de prendre de grandes décisions importantes qui vont tracer votre vie ou les rails de votre vie, qui vont vous engager sur le long terme. Souvent, les gens cherchent la volonté de Dieu pour ça. Ils mettent tout en œuvre et on cherche la sagesse de Dieu, le conseil de Dieu, la volonté de Dieu et on prie parce qu'on ne veut pas se tromper et on ne veut surtout pas souffrir. Mais c'est encore un choix, nous l'avons déjà dit, un choix qui est centré sur soi-même. Seigneur, je ne veux pas me tromper car je ne veux pas souffrir. Mais ce que Dieu voudrait nous dire ce matin, en tout cas nous poser cette question, veux-tu uniquement chercher mes conseils et ma sagesse? Ou veux-tu chercher le Dieu de conseil et le Dieu de sagesse? La sagesse de Dieu ou le Dieu de sagesse? Le conseil de Dieu ou le Dieu du conseil? Est-ce que nous cherchons Dieu pour aimer le Seigneur? Ou est-ce que nous cherchons juste sa volonté pour ensuite continuer à vivre comme nous avons l'habitude de vivre? Nous avons également dit ce que la volonté de Dieu représente pour Jésus lui-même. Nous connaissons tous le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ça fait partie des premières priorités de cette prière, que ta volonté soit faite. Sur la terre, dans ma vie, comme elle est exécutée dans l'univers entier. Jésus va dire encore que pour lui, la volonté du Père, c'était sa nourriture. C'était la base, c'était l'essentiel. C'était juste ce qui est indispensable pour vivre, c'est de faire la volonté du Père. Est-ce que la volonté de Dieu est pour nous une nourriture? Est-ce que si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous avons l'impression d'avoir le ventre vide, d'être mal à l'aise, d'être affamé, d'être faible? Car si nous faisons la volonté de Dieu, nous serons forts. Car Dieu va toujours donner sa force pour faire sa volonté. Non pas ma volonté, dira-t-il, Père, mais la tienne. Car aimer Dieu, c'est aimer sa volonté. Nous voulons ce matin non seulement chercher sa volonté de Dieu, mais nous voulons chercher Dieu et aimer tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Nous voulons aimer Dieu et en même temps aimer sa volonté, bien sûr. Et le Seigneur veut toujours nous conduire dans sa volonté. Je te conduirai, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai, dit le psaume 32, verset 8. Je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai le regard sur toi. Il est le bon berger qui aime prendre soin de chacune de ses brebis. S'il en a 100, il prendra soin de ses brebis. S'il en a 100 millions, il prendra soin. Il est capable de prendre soin de 100 millions de brebis à la fois. Il est puissant, il est le Tout-Puissant. Aucune âme n'est perdue, aucune âme n'est oubliée par le bon berger. Même si vous ne vous souvenez pas de tous les textes qui disent clairement, comme ce psaume 32, « Je te conseillerai, je t'instruirai, je te garderai », peut-être que vous ne vous souvenez pas de tous les textes. Souvenez-vous que la nature de Dieu même, lui, le Père, lui, le bon berger dans sa nature, il ne peut pas nous oublier. Il va toujours par nature, par définition, il va nous diriger. Car il prend soin de nous, il a fait une alliance avec nous. Et il est engagé envers nous. Il prend soin de nous. Il nous dirigera toujours. Son esprit nous a été donné pour nous diriger, nous enseigner, nous instruire, nous orienter, pour que nous puissions entendre sa voix, avoir une conscience réveillée qui nous permet de nous diriger. Et d'autres balises encore dont je vais parler tout à l'heure. Le Seigneur ne nous laisse pas désemparés face à sa volonté. Non, sa volonté n'est pas un mystère qu'il faut essayer de percer. Sa volonté est clairement exprimée dans sa parole. La parole plus le Saint-Esprit, plus quelques autres éléments que je vais vous citer tout à l'heure, vous permettront de vous orienter clairement dans votre vie. Est-ce que vous le croyez? Le Seigneur ne veut laisser personne dans l'embarras. Personne dans le flou, personne dans la détresse morale en disant « Je ne connais pas la volonté de Dieu, c'est juste horrible de pouvoir marcher, de devoir marcher sans rien connaître. » Non, Dieu ne vous laissera jamais comme cela. Je veux me réjouir d'avoir un Dieu ce matin qui me donne une paix parfaite face à toutes les décisions importantes ou mineures dans la vie. Toute décision à prendre, il est toujours à la hauteur pour m'indiquer le chemin d'une manière ou d'une autre. Et Dieu a mille manières différentes pour nous le montrer. Il n'a jamais toujours la même chose à nous dire. Il a des choses différentes à nous dire, des chemins différents. Car Dieu est riche, Dieu est varié et il sait nous former, nous éduquer à son école pour que nous puissions percevoir, comprendre et aimer la volonté de Dieu. Pour cela, Il y a cette condition que nous avons déjà lue la dernière fois dans Romains 12, où il est dit, cette parole est extraordinaire, nous la lisons souvent, « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui est un culte raisonnable. » Et puis il nous est dit ensuite, « Soyez transformés dans votre intelligence renouvelée, pour que vous puissiez discerner la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. » Premier pas, et j'aimerais revenir là-dessus, le premier pas c'est d'offrir sa vie. Le premier pas c'est que j'ai besoin de comprendre que sur le trône de ma vie, il ne peut pas y avoir en même temps ma volonté et la volonté de Dieu. Il ne peut pas y avoir en même temps sur le trône de ma vie, moi et Jésus, moi et le Saint-Esprit. C'est l'un ou c'est l'autre. Parce que si vous êtes tous les deux sur le trône, si je suis sur le trône et que je maintiens le leadership de ma vie et que je maintiens la seigneurie de ma vie et que le Seigneur, lui, est à côté, le Seigneur est un gentleman, il dit, je préfère me retirer, je te laisse faire. Le Seigneur ne va pas entrer en combat avec nous pour cela. Il me dit, soit le trône est pour toi et tu feras comme tu penses et tu feras ta volonté, ou soit tu es d'accord de descendre de ton trône et je prends volontiers la place et tu me la donnes et je vais conduire ta vie dans ma volonté, dans mes plans qui seront les meilleurs, bons, agréables et parfaits. Cela demande un choix. Cela demande ce mot que je vais encore une fois lâcher ce matin, la soumission. Parce que soumission veut dire se mettre sous. Si vous descendez de votre trône, vous allez vous mettre en dessous de la seigneurie et du règne de Jésus, du Saint-Esprit dans ma vie. Je suis sous, je ne suis pas quelqu'un qui est écrasé, qui est annihilé, qui est complètement, qui n'a plus aucun droit. Non, je laisse la place à quelqu'un d'autre. C'est ça que ça veut dire, être soumis. Se mettre sous la protection, la direction, la grâce, l'amour de quelqu'un d'autre, soumission. Et en faisant cela, mes amis, nous déclenchons quelque chose. Nous déclenchons en chacun d'entre nous des réactions charnelles. Car de nous-mêmes, nous avons de la peine à vivre ces choses. Pour certains, c'est relativement facile. Mais il y a toujours des réactions, même pour les plus humbles parmi nous qui disent « Oh Seigneur, je te laisse toute la place, il n'y a pas de problème. Tu fais tellement mieux que moi, je descends tout de suite. » Parce que moi, je n'arrive pas à faire grand-chose de bien. Toi, tu feras tout bien. Même des personnes qui réagissent instinctivement en se soumettant, ils auront des réactions charnelles parce que la chair fait partie de notre ADN. Et la chair de chacun de nous a besoin de passer par le même processus, à savoir la mort à la croix pour vivre la résurrection et la nouveauté de vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, je dois dire, Seigneur, je soumets ma volonté, mes rêves, mes plaisirs, mes choix et tout mon avenir. Je me décentre de moi pour me centrer sur Dieu. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui cherchent la volonté de Dieu pour ne pas se tromper dans la vie. C'est encore une vie centrée sur soi. Tant que je suis sur le trône, ma vie est centrée sur moi-même. Mais si je descends, ma vie va prendre une nouvelle perspective pour que je sois centré sur son plan, que je ne connais pas ou en partie, mais que Dieu connaît. Et combien une vie centrée sur soi, elle est petite et minable, égocentrique. Mais une vie centrée sur la volonté de Dieu est toute différente. Elle nous ouvre une perspective pour ici-bas et pour l'éternité. Elle va influencer ma vie et mon entourage et fera de moi une bénédiction pour des multitudes. Alléluia. La volonté de Dieu a tellement plus à nous apporter que ma propre volonté, même si vos idées sont bien intelligentes et bonnes, soumettez votre choix à la volonté de Dieu. C'est mon message pour vous ce matin. Sa volonté dépasse tellement ma vision limitée. Et en entrant dans sa volonté, je participe à son plan éternel. Entrer dans sa volonté fait de moi, non pas un esclave, mais un partenaire avec lui, un ouvrier. Je sais que je suis son ami. Et à ce moment-là, lorsque je suis son ami, ce qui le concerne me concerne. Ce qui le touche me touche. Ce qu'il aimerait, je l'aime aussi. Sa volonté devient ma volonté, car je l'aime. Elle est pour moi prioritaire. Alors, la peur disparaît et j'aime me soumettre à l'Esprit. Regardons dans Romains chapitre 8, verset 7. Je relis encore ce texte qui a déjà été lu la dernière fois. Romains 8, 7. Les tendances de la chair, qui sont mes réactions naturelles face à ce choix de descendre du trône de Dieu pour le laisser me diriger et me montrer sa volonté, les tendances de la chair qui réagissent en nous sont, dites-moi le mot qui est écrit dans votre Bible, ennemis de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle en est même incapable. Par notre chair, en restant nous-mêmes au contrôle de notre vie, nous ne sommes pas capables de faire la volonté de Dieu, même si elle nous paraît très intéressante et très bonne. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Or, Jésus plaisait à Dieu, son Père, car il faisait toujours sa volonté, la volonté donc du Père, la volonté du Père. Offrez votre corps, ça veut dire vraiment, Seigneur, je te laisse cette place. Je me mets vraiment en arrière ou bien je te donne ma vie, je la place sur l'autel d'un cœur entier. J'ai dit tout à l'heure, sur le trône, on ne peut pas avoir deux personnes en même temps. C'est l'un ou c'est l'autre. Ça veut dire qu'en offrant notre corps au Seigneur, le temple du Saint-Esprit, je dois le faire d'un cœur résolu et entier et non pas d'un cœur partagé. Car certaines personnes veulent la volonté de Dieu, mais veulent la faire en partie. Et en faisant la volonté en partie, vous êtes partagé en deux. Vous perdez la puissance. Vous n'êtes plus entier. Vous perdez la force, les ressources. Vous perdez la bénédiction parce que c'est pas la moitié, mais c'est rien. Un enfant partagé en deux est un enfant mort. Une vie partagée en deux n'a plus les ressources de la vie à présenter. Notre cœur doit être entier. C'est mon message ce matin. Offrez vos corps d'une manière totale et entière, pas à moitié, ni avec un cœur partagé. Car un cœur partagé est une situation inconfortable et anormale. Et Dieu attend de nous ce pas. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous recevons une force. Une force qui nous permet de faire la volonté de Dieu, coûte que coûte. Lorsque tu déposes ta vie sur l'autel de Dieu, tu as l'impression de perdre, d'être perdant. Mais le miracle qui se passe, c'est qu'en donnant ma vie, je lâche ma vie entre ses mains, je lui fais confiance, je perds tout, mais je gagne sa vie à lui, je gagne sa force à lui. C'est à ce moment-là que la force de Dieu vient pour m'aider à faire sa volonté. Il y a des choses qui humainement peut-être sont un blocage. Vous vous dites, ça je ne le ferai pas, ce pas je refuse de le faire, ce pas je n'ai, c'est pas à moi de faire ça, c'est à l'autre de faire le pas. Quand vous déposez votre vie devant le Seigneur, vous recevez l'instruction du Seigneur, vous recevrez l'éclairage du Seigneur, vous recevrez la force du Seigneur pour faire ce que humainement vous n'êtes pas capable de faire. Les tendances de la chair ne peuvent pas accomplir la volonté de Dieu. Nous recevons à ce moment-là et uniquement à ce moment-là, lorsque nous avons déposé nos vies, nous recevons les ressources divines. Alléluia. Les ressources divines ne nous sont pas données dans un cœur partagé ou si nous voulons garder les choses pour nous. Les sources divines nous sont données lorsque nous lâchons notre vie entre ses mains, lorsque nous descendons du trône et lorsque notre cœur est livré au Seigneur. Là, les sources divines arrivent et se mettent en mouvement. Il nous est dit dans Hébreux 13, verset 20, que Dieu nous rend aptes à faire sa volonté. Il nous donne le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Dites avec moi, le vouloir et le faire. Si tu veux la volonté de Dieu, tu recevras la force pour le faire. Tu reçois le vouloir et le faire. Hébreux 13 nous dit donc, verset 20, que Dieu nous rend aptes à faire sa volonté. Je me souviens qu'en tant que jeune converti, j'ai dû prendre une décision, une de mes toutes premières décisions. Je vais rester très flou parce que je ne veux pas trop raconter des choses trop personnelles par rapport à ma vie ancienne, mais je n'avais pas encore d'église, je n'avais pas encore trouvé une église. Pendant 6 mois, ma seule église, c'était une correspondance avec 2 amis qui habitaient à 2 heures de voiture de mon domicile. Je n'avais pas encore trouvé de groupe de jeunes, rien, je n'avais aucune adresse, je ne savais pas vers qui m'adresser, mais j'avais 2 amis avec qui j'écrivais des lettres qui allaient et qui revenaient. Et j'étais impliqué dans quelque chose où j'avais mis un peu de finances et qui occupait mes week-ends. Je reste flou, par exprès, je ne vous dis pas. Ne cherchez pas trop à deviner, mais tout de même, il n'y a rien de grave là derrière. En privé, je vous dirai de quoi il s'agit. Alors, j'étais donc impliqué dans quelque chose qui n'était pas mauvais en soi. Mais je peux vous dire que le Saint-Esprit, au moment où j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'avais pas encore d'église, rien. Eh bien, le Saint-Esprit m'a montré clairement que je devais arrêter ça. Personne ne m'a dit, oh, Walter, ce que tu fais là, c'est mauvais. Il faudrait quand même que je t'explique un peu, Bible en main, ce que tu dois faire. Rien, il n'y avait pas de contact, je n'avais pas été instruit, rien du tout. Mais j'ai su par le Saint-Esprit que j'avais une décision à prendre parce que le Saint-Esprit en moi m'a montré clairement que ça, il faut arrêter. Et ça m'a coûté quelque chose, pas mal de choses. Je vous dirai en détail si vous avez envie de savoir. Le Seigneur nous donne toujours la force. Même aux plus jeunes convertis parmi nous, ne dites pas « j'ai pas de force, je connais rien ». Ça ne veut rien dire. Vous recevrez la force si vous dites « oui au Seigneur ». Je me mets sur ton autel, je t'offre ma vie, vous recevrez une force. Vous allez être étonnés, vraiment étonnés. À quel point vous allez être fort. Lorsque, diplôme en main, j'avais ma carrière qui s'ouvrait devant moi, j'ai même pas eu besoin de chercher du travail. Le travail venait me chercher à l'époque. Et lorsque j'ai pris cette décision, toute simple, en suivant l'impulsion intérieure, encore une fois, aucune pression, c'était que l'impulsion intérieure de partir, de lâcher tout ça, de partir dans un pays étranger pour faire une formation biblique, alors que tout s'ouvrait d'une manière évidente devant moi, et non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et pour la suite logique. J'ai reçu une force intérieure pour dire oui à ce projet. Quand Dieu vous attire dans sa volonté, mes amis, vous devez écouter la voix du Saint-Esprit. Vous devez être courageux et fort, car Dieu vous donne cette force. Mais il faut toujours dire oui. Ce sera le point suivant. La volonté de Dieu n'est pas toujours facile à comprendre. La volonté de Dieu n'est pas toujours facile à comprendre. Lorsque nous regardons dans Actes 16, par exemple, nous voyons le grand apôtre Paul, le missionnaire, qui avec son équipe va partir de ville en ville évangéliser, car il sait très bien que le Seigneur a dit « allez par toutes les nations et faites de toutes les nations des disciples ». Donc il va partir de ville en ville, il les prend les unes après les autres, mais dans Actes 16, nous lisons qu'ils veulent entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Dieu les stoppe. Bon, mais ils ont besoin de l'évangile à Bithynie, Seigneur. Dieu dit non. Mais pourquoi, Seigneur ? Rien, pas d'explication. Ensuite, ils descendent en Mysie. Le Saint-Esprit ne leur permit pas non plus. Mais Seigneur, on est là pour évangéliser. C'est dans ta volonté, Seigneur. C'est juste de le faire. Tu nous l'as demandé. Saint-Esprit dit stop, sans explication. Paul, qui connaît le Saint-Esprit, n'est pas paniqué. Il va dormir tranquille. Il passe une bonne nuit, mais dans son rêve, la nuit, il reçoit une vision. La vision d'un Macédonien qui crie « Viens, secours-nous !» Et le texte nous dit clairement, ils n'ont pas dit « Ah, ça c'est la volonté de Dieu !» Ils ont dit « Tiens, le Seigneur nous a arrêtés là, il nous a arrêtés là. » Et le texte nous dit simplement qu'ils ont conclu que peut-être Dieu pouvait les orienter en Europe, en Macédoine. Ils ont dit « On va voir. » Et vous savez, parfois vous dites « Mais je ne sais pas trop, je ne suis pas très 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 sûr, mais il faut faire un pas. » Si j'étais là en train de faire une étude biblique pendant 2 semaines pour dire « Seigneur, est-ce que ça peut être ta volonté, oui ou non ?» On va essayer de trouver des confirmations de l'Ancien Testament pour trouver ta volonté. Ils auraient pu le faire, mais ils sont simplement partis voir sur place. Puis ils ont vu qu'il y avait un petit début, il y avait un groupe qui était là, ils se sont ajoutés au groupe et ils ont vu que des cœurs étaient ouverts. Ils ont démarré dans la maison de Lydie une église de maison, une petite cellule. Et puis, comme l'Esprit de Dieu était avec eux, il a commencé à exercer son ministère de délivrance dans les rues de Philippe, première ville d'Europe. Et là, tout à coup, il y a une opposition spirituelle qui explose. Et Paul et Silas arrivent en prison. Ils sont dans la prison intérieure, enchaînés, les ceps aux fers et aux mains. Vous savez, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, ça ne se passe pas toujours comme vous avez prévu. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, l'adversaire veut te faire croire que tu as tout raté, que tu n'es plus rien, que tu es à côté, que tu as perdu la bénédiction. Mais la preuve qu'ils n'ont pas perdu la bénédiction, c'est qu'au milieu de l'épreuve, au milieu de leur pourquoi, Ils ont une vie spirituelle intense car ils chantent les louanges de Dieu dans la souffrance. Ils sont en communion. Rien, aucun projet d'adversaire n'a réussi dans leur vie. Pleine de questions, pleine d'imprévus, bizarre comme chemin, étrange. Mais l'Esprit de Dieu les a gardés dans la proximité et dans l'intimité. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, aucune épreuve dans la volonté de Dieu, aucune épreuve dans la volonté de Dieu ne va t'enlever les réserves surnaturelles que Dieu a déposées en toi. Et tu auras les ressources pour même chanter au milieu de la souffrance. Tu chanteras dans les larmes, mais tu chanteras. Tu diras, je ne donnerai aucune gloire à l'adversaire et je louerai Dieu envers et contre tout. Dans toutes les circonstances, rendez grâce à Dieu. Et lorsqu'ils vont louer Dieu, le tremblement de terre va arriver, la délivrance va arriver, le geôlier va être baptisé. Les épreuves ne sont pas terminées. Ils vont être chassés de la ville, on leur demandera de partir. On leur demandera de partir, mais ils sont partis effectivement de Philippe. Mais mes amis, aujourd'hui, nous avons l'Épître aux Philippiens, alléluia. Oui, nous avons l'Épître aux Philippiens, car la volonté de Dieu a été faite au temps de Dieu, alors qu'il n'a pas compris ce qui se passait. Ce n'est pas parce que vous avez un résultat éclatant que vous êtes forcément dans la volonté de Dieu. Lorsque Jonas est parti pour fuir loin du Seigneur, le vent était là, le bateau était là, le soleil était là, tout était là, hop, pour partir vers Tarsis. Tout était bien préparé. Mais il était anti-volonté de Dieu, en opposition avec la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons tant d'histoires dans la Bible, pourquoi ? Est-ce que Joseph a été vendu par ses frères, lui qui avait reçu des révélations sur sa propre vie ? Pourquoi est-ce que tout a été gâché, tant d'années gâchées de sa jeunesse, à être esclave chez Potiphar ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que David, qui a été loin du Saint-Esprit, a dû pendant des années et des années fuir les cavernes de lieu en lieu pour s'enfuir simplement de ce roi mauvais qui lui en voulait ? Pourquoi ? Il était dans la volonté de Dieu pourtant. Il a été loin. Joseph avait reçu, et vous pouvez prendre tant d'exemples encore, où la volonté de Dieu, ce n'est pas forcément toujours le succès. Ce n'est pas ça qui est déterminant dans la volonté de Dieu. Mais lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, vous recevez la joie et la paix. La joie et la paix. Et la paix. Et rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu et vous enlever cette joie et cette paix. Ni les choses à venir, ni les choses passées, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni aucune autre personne ne peut vous enlever ça. Parce que vous recevez une assurance, une force que ce que Dieu vous a donné, c'est vrai, c'est authentique, vous le savez au fond de vous-même. Cette assurance, cette fermeté, vous êtes protégé. Vous avez cette assurance que c'est votre place. Et cette paix de Dieu vous accompagne. Car être dans la volonté de Dieu est une bénédiction en soi. Et là, nous pouvons toujours nous attendre à l'action du Saint-Esprit. Comme pour Paul, le Saint-Esprit a bien agi à certains moments. S'il n'y avait eu plus aucune action du Saint-Esprit, là, il faut se poser des questions. Si vous êtes dans un lieu, vous pensez être dans la volonté de Dieu et qu'il ne se passe plus rien du tout, il faut se poser une question. Mais quand vous êtes dans la volonté de Dieu, le Saint-Esprit vous accompagne et il se passe toujours quelque chose de bien. Il va confirmer votre place, il va confirmer ce qu'il vous a confié à ce moment-là. Attendez-vous dans la volonté de Dieu, non seulement aux réactions de la chair dont je viens de parler, attendez-vous aux réactions de l'ennemi. Qui veut ? Il n'est pas intéressé à vous mettre les bâtons dans les roues quand vous êtes dans votre propre fonctionnement, dans votre propre univers, dans votre propre petit royaume avec votre volonté, vos désirs et vos plaisirs. Il ne va pas vous embêter parce que vous n'avez pas d'impact spirituel. Mais dans la volonté de Dieu, le projet de Dieu est tellement grand que l'adversaire devient furieux parce qu'il sait que vous avez une influence spirituelle et que vous avez une autorité, une place. Et ça, il va le contester, mes amis. Et peut-être que nous, nous ne nous rendons même pas compte de cela. J'aime la volonté de Dieu parce que j'ai tellement vu que c'est bon. Je pourrais raconter tant de choses. Ou dirigé par le Seigneur, je suis arrivé au bon moment, au bon endroit. Combien de fois ? Mais je peux vous dire aussi que lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu et que vous y entrez par obéissance, l'adversaire peut faire des choses. Alors vous connaissez un peu de notre vie, mais quand même je voudrais juste rappeler, je ne sais pas, vous aimez les histoires drôles ou les histoires dramatiques? Vous aimez les histoires bienfaisantes? J'en ai aussi plusieurs, mais cette histoire-là, elle est différente. Mais je ne peux pas oublier, ce n'est pas quelque chose qui se produit tous les jours. Ça ne s'est pas produit non plus tous les 10 ans. Mais nous avons remarqué en tant que couple que chaque fois que nous avons été placés dans un endroit précis, en étant dans la volonté de Dieu, je peux vous dire qu'à chaque fois, l'ennemi a réagi. Mais je suis là aujourd'hui, plus petit qu'autrefois. Je suis là plus brisé qu'autrefois, mais aussi plus transformé, je pense, qu'autrefois. Car j'ai été à son école au travers de ce que j'ai vécu là. Mais si l'adversaire s'acharne tellement à certains moments, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous êtes dangereux pour lui, c'est que vous avez un impact et qu'il veut vous empêcher à tout prix d'entrer dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, ça fait partie d'un ensemble qui touche le monde. Non seulement notre lieu, là où nous vivons, mais il y a une influence qui va dans des domaines que vous ne soupçonnez même pas. Et cette influence et cet impact dans le monde et cette victoire dans le monde spirituel, ça c'est le projet de Dieu, ça c'est lui qui fait. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de tout savoir. Lorsque Paul est arrivé à Philippe, il y avait un bastion spirituel impressionnant et c'est pour ça qu'il en a souffert. Mais il a été vainqueur et l'église de Philippe a quand même été établie. Un tout petit peu durant son temps, mais plus tard par les autres. L'Église a quand même vaincu dans cet endroit fermé. Et l'Église, je veux le proclamer, le prophétiser, l'Église va vaincre. Elle va être établie dans les coins les plus sombres, mes amis. Dans les coins les plus durs et les plus difficiles. Elle va le faire au travers de vous et de moi, dans la mesure où nous obéissons à la volonté de Dieu. Il faut obéir. Il faut être d'accord, sinon ça ne marchera pas. Mais juste pour vous dire un exemple que j'ai déjà raconté à l'occasion. Lorsque nous avons quitté la Corse, nous sommes restés pendant 3 ans là-bas et la troisième année était particulièrement difficile parce que nous avions une possibilité, un projet de reprendre une église après la deuxième année dans notre travail missionnaire là-bas. Mais nous avons senti qu'il fallait dire non. Donc nous restions sur l'île de Corse où c'est un beau pays pour les vacances, mais c'est moins évident d'y vivre. Surtout dans un projet missionnaire où vous êtes complètement seul, avec très peu de moyens financiers et peu de moyens. Donc nous sommes restés la troisième année. Au bout de la troisième année, nous avons eu 6 portes ouvertes. Vraiment, on avait l'embarras du choix. Donc on a prié et la porte qui s'est ouverte, c'était d'être pasteur à l'église de Vevey en 1987. Avec notre petit déménagement, nous sommes partis de la Belgique. Nous avions laissé tous nos meubles et tous nos cadeaux de mariage étaient encore dans une chambre, nous n'avions même pas ouvert ça au bout de 3 ans. Donc nous avons emménagé tout ça dans une petite camionnette et notre voiture était pleine et notre enfant avait 6 mois. Donc nous avons mis le petit couffin juste pour qu'il y ait un peu de place pour elle et nous sommes partis. Et au mois d'octobre, le 3 octobre 1987, nous étions accueillis dans un petit appartement juste pour une nuit ou deux. Et la première nuit, nous sommes arrivés le soir, dans la nuit même, l'enfant est tombé malade. Et jeunes parents, comme Jenny l'a dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous n'étions pas du tout, nous n'étions même pas assurés, nous étions juste arrivés, nous n'avions rien fait comme niveau papier. Et là, après prière avec le pasteur qui était là avec nous, nous l'avons appelé très tôt le matin, parti au pédiatre qui tout de suite nous a envoyé à l'hôpital. Il craignait le pire. Et l'enfant est resté pendant 10 jours à l'hôpital et ils ont mis 5 jours pour trouver ce qu'elle avait. 5 jours. Trouvez pas. Finalement, au milieu de ce parcours de 10-12 jours, au milieu, il y avait un moment critique où ils ont failli nous appeler en pleine nuit parce qu'ils pensaient qu'elle n'allait pas passer la nuit. Ça, c'était donc la première nuit. La deuxième nuit, nous ne voulions pas téléphoner à nos parents pour signaler cette arrivée brutale dans ce lieu, à Vevey. Et puis figurez-vous qu'eux non plus n'osaient pas nous téléphoner. Parce que dans la même nuit, toute la maison de mes parents, une grosse ferme, brûlait en pleine nuit. On n'a jamais su pourquoi. On n'a jamais su pourquoi. Toutes les enquêtes ont été faites. Au milieu de la nuit, à 3h du matin, et je ne vais pas rallonger l'histoire parce qu'il y a beaucoup raconté là autour, et ce n'était pas juste un feu de cheminée, c'était un véritable incendie qui s'est vu à des kilomètres à la ronde, qui a brûlé pendant 3 jours entiers. La ferme a été complètement détruite. Mes parents ont été sauvés grâce à différents concours de circonstances. Mais ce choc, cette attaque de l'ennemi, parce que c'était évident que c'était une attaque claire et nette, parce que nous partions dans la volonté de Dieu, nous avons été secoués par cette attaque de l'adversaire. Mais au travers de tout cela, je pourrais vous raconter de multiples histoires où ce malheur a déclenché des bénédictions, où ce malheur matériel nous a mis dans l'angoisse, mais a déclenché beaucoup de choses par-ci, par-là, et qui ont enrichi notre vie. Je voudrais vous dire au travers de ça, et j'arrête là mon histoire, parce qu'elle est quand même unique dans notre vie, ça ne s'est pas passé tout le temps, heureusement, pour vous dire que si vous vraiment vous aimez la volonté de Dieu, vous aurez une opposition de l'adversaire. Mais vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Toutes les forces de l'adversaire ne peuvent contrer votre désir de vous mettre sur l'autel de Dieu, de descendre du trône et de laisser Jésus diriger votre vie. Rien ne peut contrer cela. Si vous êtes du côté du Seigneur, le Seigneur est de votre côté. Le Seigneur défendra, il ouvrira la route. Mais nous devons choisir d'obéir. Et je voudrais terminer par juste en disant que nous devons, bien sûr, toujours désirer la volonté de Dieu avec notre décision de la faire. Et peut-être que certains se disent ce matin, mais moi je ne sais plus ce qu'est la volonté de Dieu. Je ne sais pas. Ce que j'aimerais vous dire comme simple conseil, continue à marcher. C'est comme un vélo. Si vous êtes en train de rouler, vous allez pouvoir être aiguillé par le Saint-Esprit. Mais si vous êtes debout à côté de votre vélo, vous allez tomber et vous n'avancez en tout cas pas. Et vous ne pouvez pas percevoir la direction de Dieu si vous êtes à l'arrêt. Faites ce qu'il y a à faire tranquillement. Faites ce qu'il y a à faire et Dieu vous conduira car il est votre berger. Il prendra soin de vous. Il prend soin de moi. Il prend soin. Il nous dirigera. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Et je termine en disant ces quelques balises très brièvement pour que vous soyez alignés avec ces balises qui vous garantissent la volonté de Dieu. Premièrement, enlevez toutes les superstitions de votre vie. Il y a des chrétiens qui disent « Seigneur, il faut que tu me parles, il faut que tu me parles, Seigneur, il faut que tu me parles par ce verset. » Vous savez ce que j'ai lu là ? Et Judas alla se pendre. « Seigneur, il faut que tu me parles, c'était pas le bon verset, il faut que tu me parles, Seigneur. » Ouf. Et toi, fais de même. Enlevez de vos vies toutes les superstitions. Ne lisez pas votre Bible comme ça. Imprégnez-vous de sa volonté. Imprégnez-vous de sa volonté en lisant la parole. Je ne dis pas que de temps en temps, un verset ou le mot du jour peut vous encourager, peut vous donner une indication, c'est vrai. Mais systématiquement, il ne faut pas le faire, ce serait de la superstition. Ne vous mettez pas en opposition par rapport à la parole de Dieu. Certains disent, mais moi je ne sais pas ce qu'il faut penser, est-ce que je peux aller danser, est-ce que je peux fumer, qu'est-ce que la Bible dit sur le yoga, qu'est-ce que la Bible dit sur la méditation, ou bien sur le suicide, ou sur d'autres thèmes. Est-ce qu'il y a la volonté de Dieu qui est inscrite? Mes amis, la Bible a réponse à tout, juste à tout. Même des choses qui ne sont pas forcément décrites textuellement, tu ne fumeras pas ou bien tu ne feras pas du yoga, ce n'est pas marqué. Mais la Bible a réponse à tout. Est-ce que je peux entendre un amen ? Amen. La Bible a réponse à tout parce que vous verrez toujours le fruit de ce que vous faites. Vous verrez le fruit. Si tu ne sais pas ce qu'il faut faire, on reconnaît l'arbre à son fruit. Si des personnes ont fait une pratique un peu bizarre, est-ce que l'acupuncture c'est juste, c'est pas juste ? Regarde le fruit de ta vie. Est-ce que tu es toujours en communion avec Dieu d'une manière intense après ? Est-ce que tout va bien après au niveau de ta Bible, ta motivation ? Est-ce que ta communion est intacte ? Regarde, regarde. Tu verras, tu auras une réponse à tout. Faites confiance ensuite au Saint-Esprit. Ne bradez jamais la sensibilité que Dieu vous a donnée par le Saint-Esprit. C'est précieux cela, mes amis. Ne bradez jamais la sensibilité du Saint-Esprit. Jamais. Écoutez votre conscience qui, avec le Saint-Esprit, vous indiquera « ça, il ne faut pas faire ». Ou bien tu as la paix, vas-y, tu peux le faire. Le Saint-Esprit vous donne une sensibilité. Ne bradez ça, ne cassez pas cela. C'est hyper important. Est-ce que vous avez la paix du cœur ? Même lorsque les oui, les non s'entrechoquent dans votre tête, oui, non, je ne sais plus, la paix de Dieu surpasse tout ça et elle reste en vous. Oui, mais je vais souffrir peut-être, je vais être tout seul lorsque j'irai. La paix de Dieu viendra Et lorsque la paix de Dieu vient, même avec les questions difficiles, c'est la paix de Dieu. Elle vous maintiendra. Demandez une confirmation. L'Église est là pour cela. Il y a des personnes qui viennent au culte le dimanche et qui disent « Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. » Et je peux vous garantir, et plusieurs peuvent lever la main, lorsque vous avez prié ça sincèrement, vous êtes reparti dans le culte en disant « Dieu m'a vraiment parlé. Dieu m'a donné une indication. » Par prophétie, par révélation, par le message, par quelque chose. Ou par quelqu'un qui m'a dit un mot juste au bon moment. Regardez ensuite les circonstances. Est-ce que les portes sont ouvertes ou fermées? Et puis, si vous ne savez toujours pas après tout ça, vous avez des frères et sœurs responsables qui peuvent vous conseiller et prier avec vous. Alléluia.